L'actualité francophone, la France et l'affaire Fillon qui déstabilise la campagne électorale de François Fillon à la présidentielle. L'Afrique, le dossier de la semaine retenu par RFI, ce sont ses révélations concernant la libération d'otages français au Mali. Les conséquences de l'élection de Donald Trump, un projet de pipeline entre le Canada et les États-Unis relancé. Et en Belgique, inquiétude, des milliers d'emplois menacés face au projet protectionniste du président américain. En Suisse, enfin, la descente aux enfers d'une start-up longtemps présente comme un modèle de réussite. Mais d'abord, les personnalités de la semaine. En Suisse, Joël Marchetti, comme personnalité, vous avez retenu un certain Courgette.
Courgette, le nom de ce garçon accueilli dans un orphelinat, personnage principal du film d'animation Ma vie de Courgette. Ce long métrage du Suisse Claude Barras a été nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film d'animation. C'est rare pour une production suisse. Pour le réalisateur, voir son film faire partie des 5 meilleurs films d'animation du monde est un sentiment précieux et incroyable. Ma vie de Courgette a multiplié les prix ces derniers mois. Il a notamment été récompensé par le prix du cinéma européen. Il a également obtenu cette semaine 3 nominations au César du cinéma.
Benoît Audet au Canada, votre personnalité de la semaine est un réalisateur du Québec.
Oui, Denis Villeneuve, son dernier film Arrival est en nomination dans 8 catégories aux Oscars, dont les prestigieuses catégories de meilleur film et de meilleur réalisateur. Denis Villeneuve avait déjà été mis en nomination aux Oscars en 2011 pour Incendie, qui était en lice pour le meilleur film en langue étrangère. Jusqu'à maintenant, dans l'histoire, un seul réalisateur canadien a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur. C'était James Cameron pour Titanic en 1997.
À la une en Belgique, Nathalie De Vic, la démission d'un ministre sur la sellette depuis des semaines.
Le socialiste Paul Furlan, ministre wallon des pouvoirs locaux, rattrapé par l'affaire Publifine, une intercommunale publique qui chapeaute des structures privées dans un système très occulte. Plusieurs élus locaux y ont touché des rémunérations astronomiques pour des prestations fantômes, jusqu'à 500 euros la minute à des réunions auxquelles ils n'assistaient même pas. Conflit d'intérêts entre public et privé, cumul de mandats, bien trop de problèmes éthiques qui ont entraîné des démissions en chaîne, à tel point que tout le monde demande aujourd'hui une réforme complète et une commission d'enquête sur l'ensemble de la gouvernance wallonne.
En France, les deux hommes de la semaine sont Benoît Hamon et Manuel Valls, les finalistes de la primaire à gauche. Leurs deux photos face à face ont fait la une de la presse avec toujours ce même titre. De gauche, celle qui gère, celle qui rêve. Une social-démocratie réaliste et un socialisme renouvelé. 5,5 millions de personnes ont regardé mercredi soir leur débat télévisé. Bonne tenue, sans acrimonie, pour démontrer que ces deux gauches ne sont finalement pas irréconciliables. Manuel Valls était à l'offensive pour défendre une politique crédible. Benoît Hamon a proposé un futur désirable, un imaginaire puissant, grâce notamment à son revenu universel d'existence qui a focalisé une partie du débat. Pour RFI, la personnalité de la semaine n'est pas africaine. Cette semaine, Charlotte Idrak, c'est le président turc.
Oui, Recep Tayyip Erdogan vient de passer 5 jours sur le continent africain. Une visite à double tranchant. D'abord pour parler économie. L'Afrique attire beaucoup les entreprises turques depuis quelques années. Mais aussi pour lutter contre les réseaux de son pire ennemi, même à des milliers de kilomètres de chez lui, à Madagascar. Le président turc fait tout ce qu'il peut pour faire fermer les écoles, associations, les ONG aussi, du prédicateur Fethullah Gülen, qu'il accuse d'être à l'origine du putsch manqué de juillet dernier.
Joël Marchetti, un sujet qui a défrayé la chronique en Suisse cette semaine, elle concerne une entreprise très en vue, S3.
S3, ou Swiss Space Systems, a pendant un temps été considéré comme un des fleurons de l'innovation en Suisse romande. Cette société aérospatiale avait pour but de lancer des mini-satellites à partir d'une navette emmenée sur le dos d'un avion. S3 avait aussi l'ambition d'organiser des vols en apesanteur. Or, le 26 août dernier, stupeur, le patron de l'entreprise, Pascal Jossy, est retrouvé en pleine campagne, blessé près de sa voiture. À l'arrivée de la police, le véhicule est carbonisé et le patron de S3 souffre de brûlures au thorax et au visage. Pascal Jossy raconte, il a été agressé par deux personnes, dit-il. L'un d'eux aurait aspergé d'essence le chef d'entreprise avant de mettre le feu à la voiture et son propriétaire.
Alors cette semaine, Joël, la justice a rendu ses premières conclusions et c'est le coup de théâtre.
Oui, de victime, Pascal Jossy a pris cette semaine le statut de prévenu. La justice ouvre une procédure pénale soupçonnant le chef d'entreprise d'avoir savamment orchestré sa propre agression en août. Une mise en scène, selon les éléments de l'enquête, même si Pascal Jossy clame son innocence.
Qu'est-ce qui a pu justifier une telle action ?
Ça reste encore peu clair, mais à la suite du prétendu tabassage du mois d'août dernier, les révélations se sont succédées sur les difficultés financières de S3. Il a à un moment été question de nouveaux apports d'argent provenant de l'étranger, mais au final, c'est bien la faillite de l'entreprise qui a été prononcée. Une véritable descente aux enfers donc pour S3, qui était pourtant présentée jusqu'à récemment comme une fierté industrielle de la région.
Au Canada, la semaine était marquée par l'arrivée au pouvoir du nouveau président américain, Donald Trump. Les deux pays partagent une longue frontière et des liens commerciaux importants. Et Benoît Audet, première décision du président américain, elle a trait à un projet de pipeline controversé.
Oui, le pipeline Keystone XL qui doit acheminer le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta vers les raffineries du Texas. Ce projet était bloqué par l'administration Obama pour des raisons environnementales. Le décret signé par Donald Trump ne signifie pas que le projet va aller de l'avant immédiatement, mais disons que c'est un signal très fort en faveur de Keystone XL.
Et pour le gouvernement Trudeau, c'est donc une bonne nouvelle.
Oui, le premier ministre se livre à un jeu d'équilibriste. D'un côté, il veut lutter contre les changements climatiques et de l'autre, il veut donner un coup de pouce à l'Alberta qui cherche désespérément de nouveaux marchés pour son pétrole. Voici Justin Trudeau.
Ça va amener des bons emplois pour les Albertains, la croissance économique, surtout parce que l'Alberta a mis une limite absolue sur les émissions des gaz à effet de serre liées au sable bitumineux.
Ici au Canada, le gouvernement fédéral a déjà donné le feu vert à deux projets de pipeline, donc ce sont maintenant trois débouchés potentiels pour le pétrole albertain qui pourraient voir le jour. D'un point de vue strictement économique, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement du Canada. Maintenant, il faut voir ce que le président Trump fera de l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, un accord que les États-Unis veulent renégocier.
Donald Trump, dont les intentions économiques inquiètent davantage en Belgique, Nathalie Devic.
L'Amérique d'abord, on l'a entendu dans son discours d'investiture, le nouveau président américain n'a laissé planer aucun doute sur ses intentions protectionnistes et sa volonté de rapatrier le plus d'emplois possible aux États-Unis. Des menaces qui font craindre chez nous de nombreuses pertes. La Belgique est un petit pays, du coup notre économie se doit d'être très ouverte, les chiffres le montrent bien. Nos exportations représentent plus de 70% de notre produit intérieur brut et là-dedans, l'Amérique compte comme notre cinquième partenaire commercial. Un marché donc très important, avec en plus de nombreuses filiales américaines implantées chez nous. Pas de quoi rassurer côté syndical, comme l'explique Philippe Bertleff.
On sent bien aujourd'hui à travers différentes mesures comme les taxations douanières et comme le fait de changer la fiscalité des États-Unis. Il fait un appel du pied aux multinationales et aux entreprises américaines. On le voit par rapport à Ford, on le voit par rapport à Apple.
Mais ce ne sont pas là et de loin les seules entreprises ou activités que Donald Trump veut rapatrier aux États-Unis. Viser également les secteurs de la chimie, pétrochimie, les entreprises pharmaceutiques, le secteur technologique. Au total, on estime que pas moins de 5000 emplois pourraient disparaître. Une menace qui ne touche pas que la Belgique, mais l'Europe tout entière, chaque pays à son niveau, en fonction de ses échanges commerciaux. Les droits de douane sur les produits européens pourraient passer de 2 à 5, voire 15% dans certains cas. D'ailleurs, à ce petit jeu-là, nous ne sommes pas les plus à plaindre, puisque l'Allemagne, par exemple, pourrait, elle, perdre jusqu'à 75 000 postes.
En France, le Pénélope guette à la une de l'actualité. Pénélope, le prénom de l'épouse de François Fillon. Le Canard enchaîné a révélé que Pénélope Fillon était pendant une dizaine d'années assistante parlementaire de son mari quand il était député. Total de salaire perçu, 500 000 euros. Un député qui embauche comme collaborateur un membre de sa famille, c'est légal en France. Ce qui ne l'est pas, c'est d'avoir un emploi et de ne pas l'avoir exercé. Le Canard enchaîné a donc enquêté. Personne n'a vu Pénélope Fillon au Parlement ou dans la circonscription de son mari. La justice a très vite ouvert une enquête pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. L'avocat de François Fillon s'est précipité au parquet national financier pour déposer des documents qui prouveraient le travail de son épouse. Affaire dévastatrice pour François Fillon. Il a l'image d'un homme droit, intègre, irréprochable, dévastatrice pour son projet politique qui prône l'austérité, la rigueur, les sacrifices financiers. Et jeudi soir, à la télévision, il a tenté d'éteindre l'incendie.
Je ne trouve pas de mots pour dire mon dégoût devant le caractère abject de cette accusation. Je fais de la politique depuis plus de 30 ans, j'en connais les règles, j'ai le cuir épais. Je savais qu'en me présentant à l'élection présidentielle, j'allais affronter toutes les calomnies. Mais pas celle-là. Pas celle qui consiste à attaquer ma femme pour m'atteindre.
La justice a désormais le dossier entre les mains. François Fillon a dit d'autre part que s'il était mis en examen, il renoncerait à sa candidature. Le dossier de la semaine retenu par RFI, ce sont ces révélations concernant la libération des otages français au Mali, Charlotte Hydrac.
Dans un reportage diffusé jeudi soir sur France 2, Envoyé spécial raconte les longues et laborieuses négociations pour libérer 4 employés d'Areva. Enlevés en 2010 au Niger, ils ont passé 3 ans aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, quelque part dans le nord du Mali. Pendant ce temps-là, 2 équipes de négociateurs ont travaillé en parallèle. Leur libération a été reportée à plusieurs reprises et une partie de l'argent de la rançon n'aurait pas été versée.
Ce dernier point est essentiel car il permet d'établir un lien entre cette affaire et l'assassinat de 2 journalistes de RFI le 2 novembre 2013.
Et c'est-à-dire 4 jours après la libération des otages d'Arlitz. Dans le reportage, un témoin affirme face caméra que l'enlèvement et la mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient en fait une vengeance de la part de membres d'ACMI qui s'estimaient lésés. Autre fait troublant, l'ordinateur personnel de Ghislaine Dupont a été piraté peu de temps avant. Pour Cécile Mégy, directrice de RFI, il doit y avoir des suites.
Nous souhaitons que la justice se saisisse de ces révélations et nous mandatons nos avocats afin qu'ils demandent au juge d'instruction de poursuivre les investigations sur ces points afin que les coupables soient arrêtés, soient jugés et soient punis.
RFI et les proches des 2 reporters espèrent que ces révélations permettront enfin de faire avancer une enquête qui piétine depuis plus de 3 ans.
C'était l'actualité francophone. Vous pouvez nous retrouver sur le site lesmediafrancophones.org.